5h à Paris, 4h en temps universel, vous écoutez RFI. Le journal, c'est avec Mayelle de Charon. Bonjour Mayelle.
Bonjour Namoury, bonjour à tous. Et c'est un record, la barre des 100 000 cas de Covid-19 dépassés en France. Mais pour l'instant, la pression sur l'hôpital reste stable. Emmanuel Macron doit tenir un conseil de défense sanitaire demain. Face au durcissement de la politique migratoire grecque, les migrants empruntent de nouvelles routes plus dangereuses. Au moins 30 personnes sont mortes cette semaine dans 3 naufrages au large de la Grèce. C'était un pensable. Il y a encore un an, le réseau social chinois TikTok dépasse Google en nombre d'utilisateurs, plus d'un milliard. Et c'est un problème pour les adversaires de la Chine, analyse dans ce journal. C'était magnifique, l'émotion de Pierre Ferhuit hier en Guyane après la mise sur orbite du télescope James Webb. Ce scientifique a travaillé 20 ans sur ce projet à 10 milliards d'euros. Le seuil n'avait jamais été atteint depuis le début de la pandémie. La France a enregistré plus de 100 000 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. Un record à la veille des fêtes. Les Français se sont fait tester en masse, Olivier Sherman.
Avec 104 611 nouveaux cas en 24 heures, la France a atteint ce samedi, jour de Noël, un seuil inédit depuis le début de l'épidémie. Un niveau qui a doublé en 3 semaines. C'est du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. La progression fulgurante du nouveau variant Omicron inquiète de plus en plus les autorités sanitaires et bien sûr l'exécutif. Les perspectives à quelques jours du passage à 2022 sont bien sombres. Un variant Omicron qui se répand très rapidement et qui devrait devenir majoritaire dans les tout prochains jours. Pour le moment, Omicron n'entraîne pas de vagues d'hospitalisation. Au niveau national, la pression reste stable sur les services de soins critiques qui comptent 3282 patients à peu près comme vendredi. Le gouvernement doit réévaluer la situation lundi face à la progression de ce variant Omicron. Emmanuel Macron tiendra par visioconférence un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 juste avant un conseil des ministres exceptionnel qui doit adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal. D'autres mesures pourraient être annoncées à quelques jours du nouvel an.
Olivier Sherman, et dans le reste du monde, le variant Omicron a fortement perturbé les départs pour les fêtes de Noël. Exposés au Covid, de nombreux pilotes ou hôtesses de l'air ont dû se mettre en quarantaine. Plus de 6000 vols ont été annulés, des milliers d'autres ont été retardés. La pagaille dans les aéroports, donc plus de la moitié de ces vols concernent les États-Unis. C'est le troisième en une semaine au large des côtes grecques, en mer Égée. Au moins 16 migrants sont morts dans un naufrage vendredi. Depuis le début de la semaine, ce sont au moins 30 personnes parties de Turquie qui ont perdu la vie dans les mêmes circonstances face au durcissement progressif de la politique migratoire en Grèce. Passeurs et migrants ont en effet tendance à emprunter des routes plus périlleuses, notamment à destination de l'Italie. Les précisions à Athènes de Joël Brunner.
Le dernier d'une série de 3 canaux de migrants à avoir fait naufrage en Grèce, au large cette fois-ci de l'île de Paros, dans l'archipel des Cyclades, comptait, selon les témoignages des survivants, environ 80 personnes à son bord. Les gardes-côtes grecs, eux, ont indiqué avoir porté secours à 63 personnes, transférées pour l'instant sur cette île de Paros. Des recherches en mer étaient par ailleurs toujours en cours ce week-end, impliquant notamment 3 bateaux, un avion et des plongeurs. Paros, Folegandros, Antisithère, les îles grecques au large desquelles ont eu lieu les 3 derniers naufrages de demandeurs d'asile et de migrants, n'étaient pas référencés jusque récemment sur la carte des routes migratoires. Depuis 2015, les canaux accostaient surtout sur les îles grecques les plus proches de la Turquie, comme Lesbos ou Samos, qui abritent depuis des camps de réfugiés. Les 3 derniers accidents indiquent donc l'apparition progressive de routes migratoires alternatives. Comme toujours, les autorités grecques ont de leur côté accusé la Turquie voisine de laxisme, elle qui laisserait les passeurs agir en toute impunité. Joël Brunner, Athènes RFI.
Et un mois après le naufrage dans la Manche qui avait coûté la vie à 27 migrants, les corps de 16 victimes ont été rapatriés au Kurdistan irakien où les familles les attendaient pour organiser leurs funérailles. Après les accusations de 15 pays occidentaux dont la France, les autorités maliennes démentent le déploiement de mercenaires russes du groupe paramilitaire Wagner. Bamako en revanche évoque la présence d'instructeurs russes dans le pays. Une annonce qui n'est pas nouvelle, explique Boubacar Haïdara, chercheur au de Sciences Po Bordeaux et chargé de cours à l'université de Ségou. Pour lui, c'est aussi une manière de détourner l'attention de l'opinion publique et des interrogations sur la transition.
Ce n'est pas la première fois que les autorités maliennes reconnaissent la présence d'instructeurs russes au Mali. Vous vous souviendrez que lorsque les quatre hélicoptères Mi-171 achetés à la Russie sont arrivés au Mali, le ministre de la Défense, Sadio Camara, quand il les a réceptionnés, a clairement dit dans une interview que les hélicoptères étaient reçus en même temps que d'autres types d'armes et aussi des instructeurs qui allaient former l'équipage malien au pilotage. La déclaration des autorités maliennes est très claire. Elle demande aux partenaires européens d'apporter les preuves de la présence de Wagner au Mali. Ce qui se joue actuellement pour la junte, c'est que cette question de Wagner, de Russie, fait perdre de vue l'enjeu principal, la question cruciale qui concerne la prolongation de la transition. Plus personne ne parle de prolongation ni de sanctions.
Boubacar Haïdara, chercheur au LAM de Sciences Po Bordeaux et chargé de cours à l'université de Ségou. En République démocratique du Congo, un kamikaze a tué au moins 5 personnes en faisant exploser une bombe à Beni dans l'est du pays. Ça s'est passé à l'entrée d'un bar bondé. Les autorités provinciales accusent les ADF, les forces démocratiques alliées. Et 2 mois après le putsch au Soudan, des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté hier contre le pouvoir militaire. Elles ont essuyé des tirs de grenades lacrymogènes. Les heurts les plus violents ont éclaté aux abords des ponts reliant la capitale Khartoum aux banlieues. En Birmanie, l'ONG Save the Children annonce que 2 de ses employés sont portés disparus. Ils se trouvaient dans la zone où une trentaine de corps calcinés ont été retrouvés dans des véhicules dans l'état de Kaya, près de la frontière thaïlandaise. L'état Kaya est l'une des places fortes de la résistance à l'armée birmane. Ces villageois avaient déjà quitté leur village dans la jungle à cause d'affrontements avec l'armée. C'est une petite révolution sur Internet. Le réseau social chinois TikTok détrône le moteur de recherche Google en nombre de visiteurs web. Un bond spectaculaire puisque l'an dernier, l'application n'arrivait qu'en 7e place, devancée par Facebook, Netflix ou encore Amazon. Mais aujourd'hui, TikTok se vante de plus d'un milliard d'utilisateurs actifs. Et Théo Renaudon, ce succès pose problème aux adversaires de la Chine.
TikTok, c'est la première application chinoise à fort succès, le premier véritable soft power numérique de l'empire du milieu, ce qui crée beaucoup de méfiance de la part de pays rivaux. Par exemple, l'Inde interdit l'application depuis juin 2020. Il s'agissait alors du premier marché pour TikTok. Interdiction pour des raisons de sécurité intérieure, affirme le gouvernement. C'est plutôt un coup de massue dans la guerre d'influence entre les deux voisins. Autre pays très méfiant, les États-Unis, parce que comme Facebook, Twitter ou Instagram peuvent partager des données avec le gouvernement américain, TikTok pourrait faire la même chose avec le gouvernement chinois. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux États-Unis. L'ancien président Donald Trump avait déjà tenté d'interdire l'application. En vain, son successeur Joe Biden, lui, a lancé une enquête pour contre-espionnage. L'application, elle, se défend de tels agissements. Théo Bertram, le responsable des politiques publiques de TikTok, assure qu'il refuserait toute demande de transmission de données au gouvernement chinois.
Théo Renaudon. Mission réussie pour Ariane 5, hier parti de Kourou en Guyane. Le lanceur européen a correctement mis sur orbite le télescope spatial James Webb. La pression était au maximum. L'engin a coûté 10 milliards de dollars et il est le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Alors forcément, il y avait beaucoup d'émotions au centre spatial guyanais où se trouvait notamment Pierre Ferruit, l'un des responsables scientifiques de ce télescope. Cela faisait 20 ans qu'il travaillait dessus.
C'était magnifique, et en plus les images là où on voyait la Terre, le Webb et puis même le déploiement du panneau solaire. Oh, ça c'était vraiment c'est la cerise sur le gâteau. Et bon, le lancement vraiment super. Tout ce qu'on entend là, c'est qu'on est vraiment en route et dans la bonne direction. Très bonne injection. C'est vraiment on pouvait rien demander de plus ça. C'est, pour moi, c'était premier lancement et c'est Webb. Alors vraiment super, super, super. Il y a eu la petite larme à la fin, ouais. C'était... D'ailleurs, c'est toujours un peu pas loin.
Pierre Ferhuit au micro de Simon Rosé, le télescope James Webb qui va donc permettre d'examiner l'univers avec des moyens inégalés. Vous avez peut-être vous-même déjà testé cette nouvelle vie. Depuis le début de la pandémie et l'essor du télétravail, de nombreux citadins quittent les grandes villes pour la campagne. Mais le phénomène ne suffit pas à repeupler les milliers de petits villages qui se vident de leurs habitants depuis des années. C'est vrai en France, c'est vrai également en Suisse, où le village d'Elbinen a peut-être trouvé la solution pour attirer les habitants. Sa solution, verser de l'argent à chaque nouvel arrivant. Et ça marche, le reportage de Jérémy Lanche.
On n'a presque pas d'enfants, hein. On n'a pas d'école. Si ça ne change pas, on n'a pas de futur.
En un siècle, la population d'Elbinen a fondu de presque 150 habitants. Pour une ville, c'est peu, mais pour un village de 243 âmes aujourd'hui, c'est énorme. En 2017, le maire d'Elbinen, Beat Jost, a donc pris la décision radicale d'allouer 25 000 francs suisses, environ 24 000 euros à chaque personne qui s'installerait dans la commune. La nouvelle a fait le tour du monde avec des candidats qui ont débarqué des quatre coins de la planète.
On a eu 12 000 demandes sur email, WhatsApp, téléphone. Il y a eu des gens qui sont venus 800 km d'Italie Sud avec les valises. Ils ont demandé au magasin de là-haut où est l'argent ? Où est l'appartement ? C'était fou, hein.
Mais ce que les médias étrangers ont oublié de préciser, c'est qu'il faut avoir un permis de séjour valable et l'obligation d'acheter ou de rénover une maison. Rien à voir donc avec le jackpot que certains croyaient obtenir à peu de frais. La mesure a tout de même pleinement fonctionné.
On a accepté 38 personnes, dont 12 enfants. Fin de 2019, on a eu 4 naissances. C'était un nouveau record depuis 20 ans.
Elbinen n'est pas encore sauvé, mais le village est sur la bonne voie. La subvention à l'installation est-elle toujours d'actualité ? Deux nouvelles candidatures sont d'ailleurs en attente sur le bureau du maire. Jérémy Lanche à Elbinen, RFI.
Et puis cette image rassurante pour terminer ce journal. Pelé, la légende brésilienne du football, est apparue souriant sur une photo de Noël. Il venait de sortir de plusieurs jours à l'hôpital.
RFI Actualité,
Mailleul de Charon.
RFI, il est 5h12 à Paris, 6h12 à Kiev. Et nous restons ensemble jusqu'au prochain journal d'Afrique Matin. Nous irons d'abord en Ukraine, où 30 ans après la chute de l'URSS, la langue ukrainienne fait son retour. Un quart de la population parle désormais uniquement russe à la maison. Zoom ce matin sur le CIAE, le Centre interarmé des actions sur l'environnement basé à Lyon. Son rôle, gagner le cœur de la population et affaiblir l'ennemi. Pour ça, plusieurs moyens. Elle est tracts et la radio notamment, c'est ce que l'on verra. Vous en avez peut-être reçu au pied du sapin un jeu vidéo. Cette industrie qui pèse déjà plus de 300 milliards de dollars, elle n'a pas fini de grandir. Le nombre de joueurs en Afrique et au Moyen-Orient augmente. Dans la chronique Vivre ailleurs, Corinne Manjou dresse le portrait de l'artiste muraliste Elsa Jean de Dieu, partie s'installer à Hong Kong il y a 14 ans. La Française a remporté cette année le trophée des Français de l'étranger dans la catégorie culture. Et puis nous dresserons le bilan environnement de cette année entre les énormes incendies des États-Unis jusqu'en Sibérie et la progression de la déforestation de l'Amazonie. Les réponses sont toujours largement insuffisantes. Nous sommes revenus toute la semaine sur RFI sur un événement majeur du XXe siècle, la chute de l'URSS. C'était il y a 30 ans, le 25 décembre 1991. Et pour terminer cette série, nous sommes aujourd'hui en Ukraine. À l'époque soviétique, la langue russe s'était largement imposée à Kiev et dans les grandes villes du pays, au détriment de l'ukrainien relégué dans les campagnes et la culture populaire. Mais 30 ans plus tard, après deux révolutions et une guerre entre l'Ukraine et la Russie, la langue ukrainienne connaît un renouveau sans précédent dans l'espace public. Écoutez le reportage de Stéphane Sio.
Récemment, le Parlement ukrainien a voté une loi qui impose que la presse écrite soit imprimée avec un minimum de 50% du contenu en ukrainien. Les groupes de presse ont eu plusieurs mois pour se préparer à l'échéance du 1er janvier 2022, mais Vitaly Sitch, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire NV, a estimé que le bilinguisme n'était pas viable.
D'un point de vue économique, pour nous, ça n'avait aucun sens, ce serait trop cher, les coûts d'impression seraient trop élevés, alors on s'est dit, pourquoi ne pas prendre une décision radicale et complètement changer de langue.
Depuis sa création en 2014, le titre était publié en langue russe, comme de nombreux médias de presse écrits en Ukraine.
D'abord, j'ai demandé à la rédaction, est-ce que vous pouvez écrire en ukrainien, soyez honnête, et pas seulement pour des raisons de patriotisme de façade. La plupart des journalistes ont répondu oui, beaucoup parlent ukrainien à la maison, même s'ils écrivaient en russe au journal. Certains ont dit que ça serait difficile, mais qu'ils y arriveraient.
80% des abonnés et lecteurs réguliers ont soutenu la décision d'imprimer le journal en langue ukrainienne. Et pour cause, en trois décennies, le nombre de personnes parlant ukrainien n'a cessé d'augmenter.
50% des Ukrainiens parlent ukrainien à la maison, un quart parlent à la fois ukrainien et russe, et un quart parlent uniquement russe. On note une augmentation de 15% sur 30 ans du nombre de personnes s'exprimant uniquement en ukrainien à la maison.
30 ans après la fin de l'URSS, l'éducation dans un pays indépendant a produit une nouvelle génération qui parle naturellement ukrainien. Cependant, de plus en plus de russophones font désormais un choix conscient et civique de privilégier l'usage de la langue nationale.
Depuis 2014, un facteur politique est apparu en raison de l'agression russe. Il y a eu une russification pendant l'Union soviétique. Maintenant, je crois qu'il faut une ukrainisation douce pour assurer la construction de notre État à long terme. Mais il faut admettre qu'il y en a beaucoup de plus de 30 ou 40 ans qui parlent russe pour des raisons historiques. Il y a beaucoup de patriotes parmi eux. Je crois qu'il y avait plus de russophones que d'ukrainophones sur la ligne de front.
Selon un sondage récent, 70% des Ukrainiens se disent fiers de leur pays et de leur culture. C'est deux fois plus qu'en 2004. Et ils sont près de 80% à affirmer que l'ukrainien est leur langue natale, même quand au quotidien, ils parlent souvent russe. Stéphane Siouan, Kiev, RFI.
Et vous pouvez retrouver notre série sur la chute de l'URSS sur notre site rfi.fr. Et on s'intéresse ce matin au CIAE, le Centre interarmé des actions sur l'environnement basé à Lyon. Son rôle, c'est d'accroître la capacité des armées françaises en matière d'influence lors des opérations, autrement dit, gagner le cœur des populations et affaiblir l'ennemi. Écoutez le reportage de Franck Alexandre pour Ligne de Défense.
Au Mali, ils sont omniprésents. Les hommes du CIAE sont de toutes les opérations. La guerre contre le terrorisme est aussi affaire de psychologie. Lieutenant Stéphane.
Toutes les actions qui sont entreprises sont des actions qui ont un effet militaire recherché. Pourquoi on vient ? De ne pas s'inquiéter ou alors éventuellement de ne pas être présent sur une zone parce que ça va être une zone où on va intervenir et on souhaite avoir une liberté d'action. Donc les programmes peuvent inciter, rassurer les populations à agir, à ne pas agir, à se déplacer, à ne pas se déplacer. Toute opération se mène à Barkhane ou ailleurs dans un environnement humain. On traverse des villes, des villages. C'est un élément à prendre en compte dès les premières réflexions de planification, de programmation des opérations.
Premier moyen d'action, les tracts, autocollants et autres flyers.
Il y a deux moyens principaux qui sont utilisés, soit des documents papier, donc des flyers qui sont, bien sûr, typiquement
les mines.
Voilà, les objets explosifs, on va dire, d'une manière générique, pour inciter la population, en particulier les enfants, à ne pas toucher des engins non explosés qui seraient enfouis dans le sable.
Le second moyen d'une efficacité redoutable, c'est la radio. L'armée est capable de monter ses propres antennes pour s'adresser, par exemple, à un village.
Radio in a box, donc c'est une radio FM qui permet de diffuser des programmes et des messages, de la musique, des informations sur la météo ou sur l'arrivée d'un convoi routier. La radio, c'est un moyen privilégié de communication. L'internet, la télévision ne sont pas si développés, il n'y a pas forcément l'électricité. Nous employons des interprètes qui enregistrent les messages dans les langues qui sont utilisées dans les zones que nous voulons toucher. C'est une radio qui rentre très facilement dans un véhicule tactique, qui permet d'être déployée très facilement. L'antenne se monte en 30 minutes à peu près.
La guerre psychologique vise aussi l'adversaire, à qui l'on s'adresse avec des haut-parleurs quand il est proche.
On peut diffuser des messages de reddition, effectivement, lorsqu'un groupe armé est localisé. Ça va être un message qui peut être un petit peu plus robuste, un petit peu plus vigoureux, un petit peu plus intense. Alors ça, ce sont des messages que nous diffusons à la voix directement avec des haut-parleurs. Le largage de tracts, de flyers, peut se faire aussi bien en cible sur une population que sur un ennemi, effectivement. C'est pas forcément le mode d'action le plus utilisé. Il a fait ses preuves par le passé, il est déstabilisant, il peut démoraliser l'adversaire, donc on l'utilisera quand on en aura besoin, oui.
L'influence cible également la jeunesse, rien de mieux qu'une distribution de ballons de foot, assure le lieutenant Stéphane, pour gagner les cœurs et les esprits.
Merci Franck Alexandre pour Ligne de Défense. C'est une industrie qui pèse désormais plus lourd que celle de la musique et du cinéma réunis dans certaines parties du monde. Le marché des jeux vidéo, c'est le cas par exemple en Chine, au Japon, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Mais les marchés de l'Afrique et du Moyen-Orient grossissent avec l'essor notamment du mobile et une communauté de joueurs de plus en plus nombreux, Dominique Dezonnet.
Le nombre de joueurs vidéo dans le monde entier en cette fin 2021 est estimé à 2,7 milliards de personnes, ce qui représente plus d'un tiers de la population mondiale. Selon une étude du cabinet spécialisé néerlandais Newzoo, 14% de ces gamers résideraient en Afrique et au Moyen-Orient. La très grande majorité d'entre eux s'adonnent à leur passion de façon récréative et la plupart du temps sur un mobile, mais de nombreux joueurs africains sont passés à la vitesse supérieure en se lançant dans des compétitions en ligne de l'e-sport ou sport électronique. Ce phénomène touche désormais de nombreux pays du continent, nous précise Nicolas Schwatt, président du Bunker Republic of Gamers. Sa structure Bekarog organise des tournois de jeux de foot et des combats d'arènes multijoueurs en ligne ou MOBA qui passionnent des milliers d'Africains.
Non, je suis pas un vidéo gamer.
C'est un phénomène qui est en pleine expansion. L'année 2020, avec le confinement, a aidé. Avec Orange, on organise aussi des compétitions. Donc c'est l'Orange eSport Experience. C'est présent dans 17 pays. Et là, cette année, on a même eu l'introduction du jeu FIFA. Ça permet de créer tout ce tissu social et de le pérenniser. À titre d'exemple, au Nigeria, on a une énorme plateforme avec 33 000 joueurs. C'est vraiment en fait la possibilité de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir évoluer, progresser, donner des conseils sur des jeux, par exemple le fighting où il faut en fait beaucoup d'heures d'entraînement et d'exercice. C'est très positif en tout cas tout ça.
Hey, toi, le joueur, faut pas s'endormir.
Si la pandémie de Covid-19 et les confinements successifs ont accéléré le mouvement, le développement des infrastructures télécom sur le continent en milieu urbain a favorisé l'essor des jeux vidéo sur mobile. Par ailleurs, le Comité international olympique envisage d'intégrer plusieurs disciplines de l'e-sport dans les prochains JO de Los Angeles en 2028. Un rendez-vous planétaire que les champions des jeux vidéo africains ne voudront manquer sous aucun prétexte. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à nouvelle-avec-1-s.technologie@rfi.fr.
Dominique Dezonnet, ce chiffre a précisé le marché des jeux vidéo qui représente plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial.
Vivre ailleurs.
Elle est la lauréate des trophées des Français de l'étranger dans la catégorie artistique. Elsa Jean de Dieu, poussée par l'envie de découvrir une nouvelle culture, l'artiste muraliste s'est installée à Hong Kong il y a 14 ans. Elle parcourt alors l'Asie pour son travail, Singapour, Shanghai, Pékin ou encore Macao. Elle réalise un grand nombre d'œuvres dans la rue. Corinne Manjou l'a rencontrée.
Je vis sur Hong Kong. Je suis peintre décorateur. C'est une ville vraiment extraordinaire où on peut combiner travail et passion en même temps.
Les expatriés à Hong Kong aujourd'hui sont de plus en plus dans l'incertitude.
Oui, effectivement, on se pose pas mal de questions avec la situation sanitaire actuelle. C'est vrai que la situation sanitaire nous empêche de rentrer en France comme on veut, nous empêche de voyager. On a une quarantaine de 3 semaines à l'hôtel, donc c'est un petit peu contraignant. Ça nous éloigne de notre famille. Ça sera 4 ans cet été que j'ai pas pu rentrer en France. Ma famille me manque.
Est-ce qu'il y a des expatriés qui rentrent du fait de cette situation?
Oui, énormément. On a eu énormément de gens qui sont partis récemment, depuis ces 2 dernières années, on va dire. Donc, c'est des expats qui sont là depuis plus de 10 ans. Donc, c'est quand même des gens qui aiment Hong Kong et qui ne comptaient pas partir. Mais je pense que quand on a une famille, des enfants et puis une famille en France, etc., on se sent un petit peu isolé du reste du monde. On se sent pas libre de pouvoir aller venir comme on pouvait le faire avant. Et c'est vrai que ça devient moralement un peu compliqué de gérer ça à distance et de pas pouvoir passer du temps avec ses proches. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont pris la décision de quitter Hong Kong. Pas nécessairement de rentrer en France, mais j'ai des amis qui sont partis vivre au Portugal, j'ai des amis qui partent à Dubaï, certains ça va être Londres. Donc on sent que l'expat, il aime rester expatrié, mais le français a besoin de sa liberté, donc Hong Kong, ça correspond pas forcément à leur façon de vivre actuelle. Donc voilà, moi je ne pose pas encore la question. C'est vrai qu'on a encore une année devant nous où on sera bloqué à Hong Kong avec des quarantaines, donc ça on le sait, jusqu'au mois de novembre de l'année prochaine. Et moi, est-ce qu'après, ça va être la même chose ou est-ce qu'ils vont commencer à nous relâcher un petit peu? La grande surprise.
Alors, vous êtes artiste muraliste.
Exactement.
Qu'est-ce que ça signifie très concrètement?
Je suis peintre décorateur de formation. J'ai fait deux écoles à Paris. J'ai travaillé effectivement un petit peu à Paris avant de partir sur Hong Kong. Donc en fait, j'ai appris les techniques traditionnelles de peintre décorateur, ce qui est donc savoir faire du faux bois, du faux marbre, du trompe-l'œil, travailler avec plusieurs textures, plusieurs matériaux. J'ai toujours travaillé là-dedans parce que même avant d'aller à l'école, j'explorais dans l'entreprise familiale des matières, des stuccos, des techniques décoratives. Donc j'ai vraiment commencé à l'âge de, je dirais, 14 ans. Et depuis, je continue à explorer tout un tas de techniques. Donc ça va de la matière sur panneau jusqu'à l'exécution sur les murs. Et cinq dernières années, c'est graffiti, mais plus orienté technique street art, décoration murale en tout genre. J'ai vraiment étendu mon panel de matières, de formes, de décors, de couleurs au maximum.
Alors, vous êtes la lauréate de l'édition 2021 des Trophées des Français de l'étranger dans la catégorie culture, art de vivre.
Effectivement.
Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce trophée?
J'ai été extrêmement surprise de voir que je méritais ce prix et à la fois extrêmement touchée par rapport à toutes ces années de travail qui n'ont pas été faciles. Travailler à l'étranger avec une culture différente, avec des personnes différentes, des techniques différentes. J'ai dû adapter ma nouvelle vie à un autre pays et c'est vrai que ça a été pas toujours facile. Il y a eu beaucoup de challenges et aujourd'hui avoir une récompense, c'est vrai que c'est hyper fort, même si ça fait des années que mes clients apprécient la qualité de mon travail, on va dire. Donc, mais avoir cette reconnaissance française, je dois dire que c'est extrêmement touchant. Donc j'étais très émue.
Qu'est-ce que vous pensez que ce prix va vous apporter, mis à part un peu plus de visibilité?
Un peu plus de visibilité en France, dans un premier temps. Et d'un point de vue local, en fait, à Hong Kong, ça m'a apporté un petit peu plus de visibilité également. Mais c'est vrai que les gens me connaissent quand même, savent ce que je fais. C'est pas comme si j'avais fait un grand boom dans ma carrière hein, grâce à ce prix. J'espère que ça m'apportera des projets en France, ce serait merveilleux.
Elsa Jean de Dieu, lauréate des Trophées des Français de l'étranger dans la catégorie artistique. Elle était au micro de Corinne Manchou.
C'est dans ta nature.
C'est bientôt la fin de l'année, l'heure donc de dresser les bilans. Ce matin, c'est celui de la biodiversité. Et entre les méga-feux, la déforestation et la maltraitance animale, il y a peu de raisons de se réjouir, Florent Guignard.
Ambiance réveillon pour nos amis les plantes et les animaux à la fête cette année avec trois événements d'importance, le sommet mondial de la nature, la COP 15 de la biodiversité, la COP 26 pour le climat, tous jugés décevants au regard de l'urgence et de la catastrophe annoncée par le dernier rapport du GIEC, les experts du climat. C'est bon pour le moral. Cette année, plusieurs études ont montré que des forêts mettaient aujourd'hui davantage de CO2 qu'elles n'en absorbaient, à cause notamment des incendies qui ont encore assombri l'horizon de Sibérie jusqu'aux États-Unis. En un an, la déforestation de l'Amazonie a progressé de 41%, la biodiversité menacée jusqu'à l'espèce humaine. Le peuple des Juma au Brésil a perdu son dernier membre masculin, il ne reste que trois femmes. Alors cette année, on a planté des arbres, 5 millions en une journée au Ghana, bon, on ne les a pas comptés, ou encore 200 000 en Haïti pour restaurer les forêts de Jacmel, c'est bien, mais c'est insuffisant pour compenser toute la déforestation et toutes les émissions de CO2. Il faudrait planter 1500 milliards d'arbres à la surface des États-Unis par exemple. En 2021, les animaux sont entrés dans le code civil en Espagne, des êtres vivants doués de sensibilité. Et en France, où les abandons ont bondi cette année de 30%, la loi sur la maltraitance animale a enfin été adoptée. Fin des animaux sauvages dans les cirques, fin des élevages de visons, merci le Covid. La fourrure animale n'est plus à la mode. Le magazine Elle bannit désormais toute photo de fourrure. Le groupe de luxe français Kering, Gucci ou Saint Laurent annonce lui aussi la fin de la fourrure, mais continue de vendre des sacs en python, tiens. On a encore tué 3000 rhinocéros cette année en Afrique du Sud, 20 millions d'animaux chassés en France, dont une ours, et 7 représentants de l'espèce humaine. Ben oui, selon Willy Schraen, le patron des chasseurs français, le risque zéro n'existe pas.
Willy.
Et sinon, un nouveau chien vient d'arriver à la Maison Blanche, un berger allemand. Son cousin, le loup, gagne du terrain en France, jusqu'au Calanque de Marseille. Enfin, un album vient de se classer numéro 3 au top 50 australien, devant Maria Carey. Oui, il s'appelle « Chanson de la disparition, les chants des 53 espèces d'oiseaux au bord de l'extinction en Australie. Alors pour cette fin d'année et pour l'année qui vient, écoutez, regardez les oiseaux tant qu'il est encore temps.
Florent Guignard, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, le prochain journal d'Afrique Matin. Il est 5h30 à Kinshasa. Bienvenue sur RFI. Le journal est présenté par Léa Boutin-Rivière. Léa, bonjour.
Bonjour Mayol, bonjour à toutes et à tous.
Et Béni, dans l'est de la RDC, à nouveau frappé par une attaque. Une
troisième attaque à la bombe depuis le mois de juin. 6 morts au moins, dont l'assaillant, 13 blessés. Et le terroriste s'en est pris à un bar très fréquenté où des clients étaient venus célébrer Noël. Et les rebelles ADF sont soupçonnés. Le casier judiciaire de 296 personnes en passe d'être effacé au Tchad. Le Parlement a voté hier 2 lois d'amnistie générale concernant les rebelles et les opposants, une des premières conditions posées par les politico-militaires pour participer au dialogue national. Le coup de sifflet retentira dans 2 semaines, tout juste coup d'envoi de la CAN le 9 janvier prochain. Malgré le contexte sanitaire et les restrictions d'accès pour les spectateurs, les hôteliers restent confiants. Béni, dans l'est de la RDC, frappé donc par une nouvelle attaque. 5 personnes au moins ont été tuées hier dans un attentat à la bombe près d'un hôtel où des festivités de Noël étaient organisées. L'assaillant est mort lorsqu'il a déclenché son dispositif. On compte aussi 13 blessés, dont 2 bourgmestres adjoints qui ont été admis dans des hôpitaux de la ville. Récit de ce que l'on sait avec William Bassimike.
Selon les porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, l'attaque a eu lieu aux environs des 20h heure locale à l'entrée du bar très fréquenté d'Ishango. Il précise que les kamikazes ont activé la bombe à l'entrée du bar après avoir été empêchés d'entrer par les vigiles. Peu après l'explosion, des jeunes en colère ont tenté de barricader les boulevards Nyamwisi entre les ronds-points du 30 juin et les quartiers Malepe, mais ils ont été dispersés par la police. C'est la 3e attaque à la bombe à Beni depuis juin. La première avait visé une paroisse catholique au quartier Boutsili, faisant 2 blessés parmi les fidèles. La 2e a eu lieu dans un débit de boissons, faisant pour seule victime les kamikazes. Pour les porte-parole du gouverneur militaire, les terroristes ADF aux abois sur le plan opérationnel sur le terrain ont actionné leurs cellules dormantes dans la ville de Beni et les agglomérations environnantes en vue de déclencher des actions contre les paisibles citoyens. Les maires de Beni appellent les habitants à rester chez eux. Les autorités militaires du Nord Kivu appellent la population du territoire de Beni à la vigilance et à éviter des lieux de forte affluence pendant cette période des fêtes. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Et cette attaque pour laquelle les ADF sont soupçonnés intervient alors que depuis le 30 novembre, la RDC et l'Ouganda ont lancé des opérations militaires conjointes contre ce groupe rebelle. Vendredi encore, les deux armées se félicitaient de plusieurs succès sur le terrain, des arrestations et des destructions de cash notamment. 3 policiers condamnés à la prison à perpétuité, un autre à 10 ans d'emprisonnement. En République démocratique du Congo toujours, voilà les peines dont ont écopé hier 4 membres des forces de l'ordre, reconnus coupables d'avoir torturé à mort un détenu la semaine dernière. Et l'affaire avait suscité la colère sur les réseaux sociaux. Et dans une vidéo publiée sur Internet, on voyait la victime, un homme de 32 ans accusé de vol de voiture, en sous-vêtements dans les locaux de la police, ligoté puis frappé. La loi d'amnistie générale tchadienne adoptée par le Parlement de transition. Vendredi soir, le Conseil national de transition s'est à une écrasante majorité prononcée en faveur de deux projets de loi qui vont permettre d'effacer les condamnations de près de 300 opposants et participants aux groupes armés rebelles. Cette condition était un préalable indispensable au dialogue national voulu par les autorités, mais pour certains rebelles, ce n'est qu'une première étape. Nadia Ben Marfoud.
Les deux textes de loi ont été adoptés avec 68 voix pour, 0 contre et une abstention. Le premier projet de loi d'amnistie porte sur des faits d'actes de terrorisme, de complicité, de recrutement et d'enrôlement de mineurs dans les groupes armés. Le second sur les faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et au délit d'opinion. Selon le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, 296 personnes sont concernées. En adoptant ces lois, le Conseil national de transition répond à une des principales exigences des groupes rebelles pour qu'ils acceptent de prendre part au dialogue national. Le président de la transition Mamad Idriss Déby l'avait initié en août à l'occasion de la fête nationale. À noter, ces amnisties n'impliquent ni la réintégration au poste occupé avant les condamnations, ni la restitution des biens confisqués. Maître Max Luanga, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et coordinateur de la coalition de la société civile Wakitama, parle d'une amnistie sélective alors que les rebelles se comptent en milliers. Pour lui, si l'on veut faire une paix véritable, il faudra que tout le monde se retrouve à la table des négociations.
Et après l'adoption de la loi, le porte-parole du gouvernement a salué une phase importante et historique du Tchad. Nous souhaitons aux personnes concernées de rentrer dans le pays de façon sereine pour assister au dialogue, a-t-il ajouté. En bref, dans ce journal, nouvelle violence hier au Soudan. Pour la 10e fois, de très nombreux Soudanais s'étaient réunis, malgré la coupure des réseaux mobiles et internet, pour demander le départ des militaires au pouvoir. Mais les forces de sécurité ont rapidement ciblé la foule avec des tirs de grenades lacrymogènes. Et à Khartoum, la manifestation a été émaillée de pillages et d'affrontements. Et malgré tout, les protestataires restent mobilisés. Ils se sont donné rendez-vous pour le 30 décembre, c'est-à-dire jeudi.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
C'est dans 2 semaines tout juste. Le coup d'envoi de la CAN 2021, ce sera le 9 janvier prochain avec 1 an de retard. L'organisation de la compétition a été bousculée par la crise sanitaire. Et encore maintenant, les acteurs sur place doivent se préparer en prenant en compte le coronavirus. Elle se pose notamment la question du remplissage des stades et de l'hébergement. Pour accéder aux infrastructures, les spectateurs devront disposer d'une preuve de vaccination ainsi que d'un test PCR négatif. Or, moins de 5% des Camerounais ont reçu un schéma vaccinal complet. Pas de quoi pour autant inquiéter les hôteliers. Écoutez la présidente de leur syndicat, Chantal Leva.
Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de désistement. C'est vrai que la semaine dernière, il y avait quelques doutes. Aujourd'hui, on attend les mesures qu'il faudra adopter pour les tests PCR. Ce qui nous prend au nez, c'est peut-être les restrictions sur le nombre de places. Les stades ne seront peut-être pas tous pleins à 100%. On devra peut-être observer des restrictions entre 50 et 75%, on ne sait pas encore. Mais au niveau des hôtels, tout est prêt, on attend du monde, on a des demandes des différents pays qui veulent ramener leurs supporters. Il y en a certains qui ont envoyé des représentants, les Comores étaient là, la Guinée aussi, même sur Garoua, il y a une demande très forte des Nigérians qui veulent avoir des appartements, et ça comporte toutes les catégories, de 4 à 1 étoile. Donc les demandes sont vraiment importantes.
Un propos recueilli par Binta Diagne. Imbroglio autour du pass sanitaire au Gabon. Le gouvernement a publié ce week-end un arrêté concernant l'application de ce dispositif. Un arrêté identique à celui déjà déposé il y a quelques jours. Pourtant, vendredi, la Cour constitutionnelle avait annulé ce texte, estimant que la procédure n'avait pas été respectée et que le Parlement aurait dû être informé selon les règles en vigueur. De quoi susciter la colère de la société civile. Le gouvernement, de son côté, estime que la Cour constitutionnelle s'était prononcée sur la forme de l'arrêté et pas sur le fond. Pas encore de nouvelles dates pour des élections en Libye, mais déjà les alliances se redessinent. En début de semaine, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, a rencontré l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachara, et 5 autres candidats à la présidentielle. Et l'objectif était de se coordonner dans l'attente d'une nouvelle date, mais cette rencontre en tout cas marque bien le changement d'ambiance politique en Libye. Khalifa Haftar et Fatih Bachara étaient opposés lors des guerres de 2014 puis de 2019, mais ils se sont aujourd'hui rapprochés face au Premier ministre par intérim Abdelhamid Beyba, Ouda Ibrahim.
Pour cette nouvelle alliance entre le chef de parlement Aguila Saleh, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachara et le maréchal Haftar, la destitution du premier ministre Dbeiba est une nécessité absolue pour désigner un nouvel exécutif de transition qui organisera les élections. Si ce rapprochement avec le camp Khalifa Haftar est risqué pour Bachara et pourra impacter son influence à l'ouest, cet homme, originaire de Misrata, semble déterminé à contrer Dbeiba, à qui il reproche de lui avoir usurpé le poste de premier ministre de la transition en achetant les voix de plusieurs membres du forum politique. Face à l'image puissante de la poignée de main échangée entre Haftar et Bachara, le premier ministre Dbeiba s'est affiché le 20 décembre aux côtés de ses nouveaux alliés, Khaled El-Mishri, président du Haut Conseil de l'État, ainsi que le porte-parole des forces qui s'étaient opposées à Khalifa Haftar à Tripoli. Une confrontation politique existe déjà entre les deux nouvelles alliances, Haftar, Bachara et le Parlement d'un côté, Dbeiba, les milices et le Haut Conseil de l'État de l'autre. Pour le premier, Dbeiba doit être destitué par tous les moyens possibles, y compris la force. Le second peut toujours compter sur les secours des milices de Tripoli et Misrata afin de rester au pouvoir.
Une précision signée Ouda Ibrahim. La période des fêtes est lancée. Noël ce week-end pour ceux qui le célèbrent, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An le week-end prochain. Mais à Madagascar, ce qui est habituellement une période faste a démarré en demi-teinte cette année. Et sur les marchés de la capitale Antananarive, les commerçants ne cachent pas leur déception. Le coût de la vie a augmenté, le budget des malgaches s'est restreint, les repas de fête sont donc plus modestes, en petits comités. Conclusion, sur les étals, difficile pour les commerçants d'y trouver leur compte. Laetitia Bezin.
Au marché d'Analakil, dans le centre de la capitale, sur les étals des boucheries, de nombreuses pièces de viande n'ont pas trouvé preneur. La qualité des produits de Yanj n'a pas suffi.
Je n'ai pas du tout reçu de commande. On espère que cela va s'améliorer d'ici la fin de l'année, mais le prix de la viande n'arrête pas d'augmenter depuis un mois chez les grossistes. Le kilo de viande de zébu a presque doublé.
Dans le panier de Hant, enseignante à la retraite, le strict minimum.
Avant, on mangeait du poulet ou de la dinde, mais cette année, c'est juste de la viande de porc. Tout a augmenté. Avant, on pouvait acheter une dinde à 60 000 ariari, mais en ce moment, c'est 100 000 ariari. On n'a même pas invité nos frères et sœurs parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat cette année. Et il y a aussi cette épidémie qui s'ajoute à tout ça.
Avec la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, les autorités ont interdit les rassemblements de plus de 100 personnes dans les espaces clos, dans les régions les plus touchées, notamment celle de la capitale. Une décision qui a fait chuter les ventes de dadafar, sylvain, poissonnier.
On vend des tilapias, des carpes et des anguilles. On avait des commandes pour ces produits, mais avec la nouvelle règle sanitaire qui est sortie soudainement, les organisateurs de soirées nous ont dit que leurs commandes ne tenaient plus parce qu'ils ne peuvent pas se rassembler. Chacun reste dans son foyer.